Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Joseph Kabila perd son immunité de sénateur à vie et mis à la disposition de la justice. Le Sénat autorise ainsi les poursuites contre l'ancien chef de l'État congolais. Ceci résulte d'un vote hier à la Chambre haute du Parlement. Joseph Kabila est accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. Situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans le retour au Nord Kivu. C'est depuis le début de ce mois de mai, la reprise des violents affrontements entre le M23 et les Wazalendo a causé des vagues de déplacements, constat de Médecins sans frontières présentes dans la zone. Et pour comprendre les raisons de la récurrence des affrontements entre le M23 et les Wazalendo pour le contrôle de Butare dans le Nord Kivu, Radio Okapi reçoit Josaphat Musamba, chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Réquisitoire de l'auditeur général des FARDC, le Sénat autorise les poursuites contre Joseph Kabila et lève à cet effet ses immunités en tant que sénateur à vie. À la suite du vote à bulletin fermé auquel ont pris part 96 sénateurs, 88 ont voté pour la levée des immunités de Joseph Kabila, 5 contre et 3 bulletins nuls. Avant le vote, le Sénat a adopté à l'unanimité le rapport de la commission spéciale qui a recommandé à la plénière de lever les immunités du sénateur à vie et l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre. Compte rendu de Michel Kifindangoy.
Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix, contre 5 voix, abstention 0 voix, bulletin nul 3. En conséquence,
par ces mots, Jean-Michel Samalukonde valide le vote de la levée de l'immunité du sénateur à vie. De quoi l'auditeur général des FARDC reproche-t-il à Joseph Kabila? Carole Aguito, rapporteur de la commission spéciale.
Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme suit. Participation à un mouvement insurrectionnel par ses liens présumés avec le M23-AFC. Trahison. Participation à des crimes de guerre.
Dans sa résolution, le Sénat se dit compétent d'élever les immunités du sénateur à vie, affirme son rapporteur Nefertiti Ngudianza.
Considérant que la levée des immunités d'un sénateur relève de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution, le Sénat donc lève les immunités parlementaires du sénateur à vie.
Le président de la République honoraire Joseph Kabila vient donc de perdre son immunité de sénateur à vie et est mis à la disposition de la justice pour prouver son innocence.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, la situation sécuritaire et humanitaire se détériore davantage depuis le début de ce mois de mai dans une grande partie de la chefferie de Bouito, dans le territoire de Rutshuru. La reprise des affrontements violents entre les rebelles du M23 et les Wazalendo a occasionné des vagues de déplacements des populations, constat de Médecins sans frontières, organisation humanitaire qui se trouve dans la zone. La chef de mission adjointe de MSF parle d'un afflux massif des populations qui trouvent refuge à Bambo Centre, notamment à l'hôpital général, tandis que d'autres ont reçu l'ordre d'évacuer leur village. Sifa Maguru nous en parle.
Au moins 500 ménages ont trouvé refuge dans les écoles, les églises et autres sites temporaires, alors qu'environ 4000 sont dans des familles d'accueil, affirme Mathilde Guéo, chef de mission adjointe du MSF à Goma. La cité des Bambous est surpeuplée et presque toutes les familles résidentes hébergent des déplacés, poursuit-elle. La situation est préoccupante dans les sites informels où ces ménages sont venus sans rien prendre en termes de récipients d'eau, savon et services hygiéniques. Les installations sanitaires sont insuffisantes. Certains ménages passent la nuit à la belle étoile sans moustiquaire, alors que l'accès à l'eau et à la nourriture pose déjà un problème dans toute la zone des Bambous parce que la population n'accède plus aux champs à cause de l'insécurité, décrit la responsable de MSF. l'UNICEF.
Donc voilà, nous on a des équipes présentes à Bambou et à Kibirizi. C'est vraiment à partir du 15 mai que la situation s'est fortement dégradée avec des combats, y compris dans le centre-ville de Bambou, avec des armes lourdes. On observe vraiment un afflux de population massif. Certains villages auraient reçu des ordres d'évacuation, d'autres se déplacent préventivement.
La situation reste tendue dans la zone.
Par ailleurs, toujours au Nord Kivu, le conflit opposant le groupe armé Union des Patriotes et Démocrates pour la Défense du Congo, UPDC, d'un certain Noah Machano, au chef du secteur de Katoy, devient inquiétant. Selon des sources locales, dans le territoire de Masisi, l'autorité coutumière interdit l'exploitation illicite de la carrière minière de Kirambo en vertu de l'arrêté signé le 12 février 2025 par le ministre des Mines, ce que le chef Muzale Ndone semblerait pas accepter selon ses sources. Rachel qui essaie nous raconte.
Tout est parti d'une opération menée par la police nationale congolaise sur instruction du chef des secteurs de Katoy lundi 19 mai dernier dans cette carrière minière située dans la localité de Kirambo. C'est dans le groupement Oufamandou 2, territoire de Masisi. Sur place, la police va mettre la main sur 9 creuseurs artisanaux qui exploitent clandestinement les rubis et la tourmaline dans ce site minier. Pour certains défenseurs locaux des droits humains saisis de la situation, Machano aurait déployé ses éléments pour imposer la libération immédiate et sans condition de 9 criseurs artisanaux. Par la suite, le même chef milicien, Muzalendo, aurait instruit l'arrestation par ses hommes du policier qui avait mené cette opération. Le policier ayant pris fuite, son épouse sera amenée par les éléments de Machano et se trouverait en détention à Remeka dans le même groupement. Ces acteurs qui condamnent cette arrestation arbitraire exigent la libération de cette dame et la restauration de l'autorité de l'État dans cette zone de Oufamandou sous contrôle exclusif des groupes armés.
Au Maniema, la population du territoire de Kibombo lance un cri d'alarme vers les autorités tant nationales que provinciales. Elle dit être victime des actes de torture, extorsion et pillage de la part des Wazalendo. Un motard a été assassiné par ces derniers dans la nuit de mercredi à hier jeudi dans le groupement Okona. La nouvelle dynamique de la société civile de Kibombo sollicite l'intervention des institutions légalement établies. Le président de cette structure citoyenne, Jonathan Edongo, explique la situation au micro de Radio Okapi.
Je viens à la radio Okapi dénoncer les actes de barbarie, d'abus de pouvoir dans le chef de nos frères Wazalendo. Depuis que ce mouvement existe dans le territoire de Kibombo, la population est très mécontente dans le sens que ces gens tabassent et torturent la population d'une manière incroyable. Les biens de la population emportés. Lorsqu'ils vous torturent, il faut donner 500 000, il faut donner 1 million, il faut donner 7 chèvres. Donc, on n'assiste plus à un climat de paix. Un montard vient d'être tiré en bout portant par les mêmes soi-disant patriotes, Wazalendo. Alors, nous demandons aux autorités tant provinciales que nationales de s'y impliquer. Le président de la République les appelle les patriotes Wazalendo. C'est pour défendre l'intégrité territoriale et non traquer la population. Les Wazalendo font la justice aujourd'hui. Ils interpellent les gens, ils arrêtent. On ne sait pas, on est dans quel pays où une administration est devenue parallèle.
Contacté, le ministre provincial de l'Intérieur dit reconnaître les faits. Lawa Moselemani promet de réagir incessamment. Dans l'actualité aussi, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC promet de faire des réformes de la police nationale congolaise sa priorité. Cet engagement a été pris jeudi à Kinshasa lors de la clôture de l'atelier de renforcement des capacités organisé en faveur des membres de cette commission, des éléments de la police et de certains acteurs de la société civile congolaise. Le compte-rendu de Ronéline Tibonera.
Cette activité inscrite dans la phase 3 du programme d'appui à la réforme des secteurs de la sécurité a mis l'accent sur les questions de réforme de la police et sur la loi des programmations exercice 2025-2029 avec pour objectif de rendre la police nationale plus performante et professionnelle, souligne un participant.
Ces trois jours de travaux ont été enrichissants car ont permis de jeter les bases d'une meilleure compréhension des enjeux liés à la gouvernance et à la réforme des secteurs de la sécurité, particulièrement la réforme de la police nationale congolaise.
Alors Alors que la police nationale congolaise fait face à d'innombrables défis, le chef de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Rubens Mikindo, compte faire de problématiques abordées lors de cette session sa priorité.
Nous allons tout faire pour que l'exécutif puisse exécuter ce projet de loi.
De son côté, Mario Caivano, membre de la délégation de l'Union européenne en RDC, salue ces décisions prises par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.
Il est impératif que cette réforme, qui est déjà amorcée, soit accompagnée d'un cadre juridique clair, soutenu et suivi par la représentation nationale. Au-delà de votre texte, vous avez un rôle crucial à jouer dans le contrôle de la mise en œuvre effective et dans l'allocation budgétaire appropriée et dans le suivi des engagements.
Cette activité s'est tenue grâce au soutien financier de l'Union européenne.
Direction le Congo central, tous les habitants du village Bangoudia-Zulu, groupement Kolo, secteur de Boko dans le territoire de Mbanzangungu, sont sommés de quitter ce village. Cet ultimatum est contenu dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mbanzangungu en 2020 et signifié aux concernés depuis 2021. Les notables du secteur de Boko haussent le ton face à cette situation. Ils disent être préoccupés du sort des habitants et des vestiges du village Bangoudia-Zulu après l'exécution dans 72 heures de cette décision judiciaire. Ils demandent l'implication du chef de l'État face à cette situation qui empiète, selon eux, plusieurs dispositions légales. Explication Nana Pleurish Mambou.
Cette affaire opposait les nommés Mbanda du village Bangoudia Ndimba contre les nommés Ntsangu du village Bangoudia Zulu. Tous deux propriétaires des terres et chefs des clans des deux villages Bangou, frontaliers et se partageant les terres limitrophes. Les jugements avaient été rendus en 2020 par le tribunal de grande instance de Mbanzangungu en défaveur du nommé Ntsangu, chef des terres du village Bangoudia Zulu, qui était condamné par défaut parce qu'il est absent au tribunal. C'est le 14 mai que les habitants de Bangoudia Zulu ont appris à travers une notification d'un huissier de justice qu'ils doivent quitter leurs milliers de vies qui les a vus naître et grandir. Ces villageois sont anéantis et ne savent où aller, comme l'affirme Victor Nduzimbembe, l'un des notables de Mbanzangungu.
Ces gens-là, on les jette dans la rue. Ils deviennent des apatrides. Donc, ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus rien. Et ça, c'est humiliant et ça viole la constitution.
Les notables de ces coins ont déjà saisi les ministres nationaux de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, les députés nationaux, l'Assemblée provinciale et les gouverneurs du Congo central. Ils attendent une réponse favorable afin qu'ils ne vivent pas les horaires qu'ont vécu les populations des villages Kimbongo et Kinlele, déguerpis des forces par des brigands et abandonnés au bureau du secteur de Boko.
Rendons-nous au sud Kivu. Des fortes pluies accompagnées de grêles sont signalées depuis une semaine sur les villages de Mukwija, Kalangala, Sandi et Kanege, situés dans le groupement de Mbinga Nord, territoire de Kalehe. Selon la société civile locale, ces précipitations ont causé d'importants dégâts aux cultures. Cette région, réputée pour sa production de manioc et d'autres produits agricoles, pourrait voir sa population sombrer dans la famine, alerte Benjamin Mungazi, responsable de la société civile. Face à cette crise émergente, il interpelle les organisations humanitaires et appelle à une assistance urgente en faveur des ménages affectés par les conséquences de ces intempéries. Benjamin Mungazi explique la situation au micro de Ronéline Tibonera.
Une forte pluie de grêle pleuvoit dans le groupement de Mbingano, territoire de Kalehe, province du sud de Kivu, plus particulièrement dans le village de Mukwija, Kalangala, Muganzo, Sanzi et Kanenge, abîme des plantes dans des champs, dont les manioc, haricots, soja, maïs, ainsi que les fleurs des arbres fruitiers sont parvenus de tomber par terre. La nouvelle société civile demande au gouvernement provincial et national, aux ONG, aux personnes de bonne volonté de venir en aide à cette population de Mukwija, Kalangala, Muganzo, Sanzi et Kanenge, et qui n'auront plus de production avec des semences, de l'argent, des vivres et non vivres pour les soulager dans cette situation de famine qu'ils vont parcourir dans l'avenir. Nous demandons aux humanitaires de CICR, PAME, qui œuvrent à Goma et à Bukavu, de venir aussi en aide de cette population se trouvant dans le groupement de Mbinga Nord avec ceux dont on a cité Siho pour pallier à ces problèmes de la crise.
Suite et fin de notre série de reportages sur le choléra à Kalemie dans le Tanganyika. En effet, la zone de santé de Kalemie a enregistré près de 900 cas de choléra et 10 décès depuis le début de cette année. D'après le superviseur des soins de santé primaires dans cette zone, le centre de traitement des maladies diarrhéiques continue à recevoir des malades. Le point avec Paulin Munanga.
Le superviseur des soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemie indique que cette semaine, une moyenne de 30 cas de choléra par jour est enregistrée. Il précise qu'à la 19e semaine, il y a eu 76 cas dont un décès et la semaine 20, 55 cas et 2 décès ont été enregistrés. Germain Kalenga souligne que la plupart des décès dus au choléra l'ont été à domicile. Ils proviennent de la cité et des villages éloignés. D'après lui, les malades sont acheminés au centre de traitement des maladies diarrhéiques avec un grand retard. Certains tombent malades pendant la nuit et ils décèdent avant d'atteindre le centre. Le gouvernement du Tanganyika a assisté les malades de choléra avec des intrants, annonce le superviseur des soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemie.
Il y a le gouvernement provincial qui nous a donné des intrants, donc plus de 5000 litres d'urgence. Et nous avons aussi réquisitionné d'urgence tous les infirmiers de la ville pour contenir aussi au niveau de cet MD afin de faciliter la prise en charge normale de tous ces cas-là.
Germain Kalenga rappelle à la population de Kalemie de respecter les mesures d'hygiène pour éviter cette maladie des mains sales. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Déception en Afrique du Sud après l'échange entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa à la Maison Blanche le mercredi. Des Sud-Africains reprochent à leur président de n'avoir pas suffisamment riposté aux accusations d'assassinat systématique des fermiers blancs renouvelées par le président américain. Pour beaucoup, Cyril Ramaphosa a été pris à contre-pied par Donald Trump lors de leur échange. Le président sud-africain entendait profiter de la rencontre pour remettre sur les rails les relations entre son pays et les États-Unis.
L'invité.
Des nouveaux combats ont opposé samedi dernier les rebelles du M23 ou Azalendo du groupe CMC dans la localité de Butare, une zone densément peuplée du groupement Tongo dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ces attaques simultanées lancées depuis Kabizo et Katiru ont causé des décès au sein de la population civile ainsi qu'un déplacement massif de la population, rapportent les humanitaires. Pour comprendre les raisons de la récurrence des affrontements entre le M23 et les Wazalendo, pour contrôler cette entité, nous recevons Josaphat Moussamba, chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine en RDC. Il répond aux questions de Ronéline Tibonera.
Josaphat Moussamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Ronéline Tibonera.
Quels sont les facteurs susceptibles d'expliquer les récents affrontements dans la zone du triangle Tongo-Bambo, Kabizo-Butare dans le territoire de Rutshuru entre le M23 AFC et certains groupes armés Wazalendo?
Trois facteurs peuvent expliquer les affrontements entre les groupes armés, notamment le CMC ou le VDP Wazalendo contre le M23 AFC. Il s'agit d'abord des facteurs stratégiques liés à des zones forestières ou des zones un peu enclavées, surtout dans et autour du parc national de Virunga, où les CMC ont été souvent, et c'est une zone où ils ont beaucoup de renseignements géographiques. Deux, les effectifs militaires réduits, souvent de l'AFC M23, qui ne peuvent pas contrôler l'entièreté de la province du Nord Kivu, et y compris ceux du Sud Kivu, ainsi que les facteurs centrés sur la défense des territoires contrôlés par les FDLR à l'époque, parce que Bambu, Tongo, Kishishe, Mozambique, Kibirizi, Katwe, Bualanda, toutes ces zones étaient vraiment des zones contrôlées par les FDLR, et beaucoup de groupes armés Nyatura étaient avec. Et donc, le M23 ne peut pas se tromper qu'il va contrôler facilement ces zones.
Vous avez précédemment mené une de recherche sur la dynamique des groupes armés dans la région. Deux ans après le début des offensives du M23, peut-on toujours considérer ces groupes comme une menace pour la stabilité régionale?
Je dirais par affirmatif et par négatif. D'abord, je commencerai par expliquer pourquoi je dis l'affirmatif. D'abord, le M23 lui-même reste une menace interne pour les FARDC. Il reste une menace pour les autres groupes armés, ces groupes armés ou ces groupes CMC, ces Wazalendo et VDP. Et il reste une menace pour les forces de défense locales au niveau interne. C'est pour dire que même ces groupes sont une menace autant pour le Rwanda, pour l'Ouganda. L'Ouganda n'a pas encore posé ses problèmes. Même pour d'autres États de la région, ça reste toujours des menaces, mais qui sont des menaces projetées. Mais le M23 reste aussi une menace autant pour les FARDC, une menace pour ces groupes armés, ça reste une menace aussi au niveau interne. Alors, au niveau national, l'AFC M23, c'est aussi une menace pour l'aide du Congo. C'est une menace pour le Burundi. Je ne sais pas pour la Tanzanie. Par contre, elle n'est pas une menace pour le Rwanda, avec qui elle traite des rapports étatiques, des faits. Elle n'est pas une menace pour l'Ouganda et le Kenya, à mon avis. Ensuite, je reviens sur les négatifs. En considérant le niveau de légitimité dans l'arène humanitaire à l'est du Congo, l'AFC M23 et le Rwanda ont pris en otage de contingents samedi. C'est certains combattants AFC et des Rwandais RDF s'en prennent à des casques bleus des Nations Unies, mais ils ont aussi ouvert le couloir humanitaire des sabotages et d'humiliation, avec le rapatriement des réfugiés en dehors de quatre tripartites. Maintenant, ils ne sont pas une menace à partir du moment où ils rentrent dans la politique congolaise de contestation et d'endiguement du M23. Mais les groupes armés, ça reste toujours des menaces à l'interne, bien qu'ils soient partis dans la politique d'endiguement du M23 à RD.
Quelles pourraient être à ce stade les conséquences de ces nouvelles violences sur les efforts de pacification déployés dans cette région?
De ce point de vue, l'AFC est confronté au phénomène stratégique que j'appelle la kimbirikitisation armée, c'est-à-dire qu'un groupe armé qui va contrôler l'espace où il est contesté, où il n'a pas d'ancrage, où les populations ne veulent pas, immobilise leur groupe armé pour pouvoir le rejeter, le contester et l'affronter autant qu'il veut. Et il ne peut pas ubiquitaire, il ne peut pas être ubiquitaire dans ces zones-là, donc il va souffrir de ces problèmes-là. Donc, le M23, il va contrôler, si vous voulez, des espaces, mais il est contesté continuellement par les groupes armés et d'autres personnes. Donc, je ne vois pas les perspectives durables de paix dans ces zones. Que l'AFC contrôle éternellement la zone ou pas, mais le futur n'est pas durable.
Comment pourrait-on enrayer définitivement les cycles des violences dans cette partie du Nord Kivu?
Pour moi, il est difficile de l'imaginer. Je crois que les perspectives sont loin vraiment de notre portée. Alors, cette violence ne peut être enrayée que dans les cas suivants. Premier, que l'AFC neutralise, si vous voulez, tous les groupes armés, y compris les CMC et les Wazalendo, et les chasse dans tout l'espace des parcs nationaux de Virunga, ce qui est complètement difficile et ce qui est compliqué. Alors, les FRDC ont eu du mal à chasser les FDLR à son temps. Comment les M23, qui n'ont pas assez d'effectifs autant que les FRDC, les feront-ils? Et ça, c'est des questions, et sur le plan stratégique, ça les dépasse. Donc, peut-être le processus de Doha, de Washington, vont arriver à changer les choses, mais ce serait difficile. Même si ça changeait les choses, il y a des chocs, il y a des blessures déjà dans ces zones. Peut-être on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain ou après demain.
Josaphat Moussamba, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Ronely Bonera.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Belinda Bosuma. On vous retrouve à nouveau dans moins de 40 minutes pour un nouveau journal sur Okapi. C'est la matinale de Radio Capi que vous écoutez en ce vendredi 23 mai 2025. C'est la deuxième partie de la matinale avec dans quelques instants la revue de presse. Ce sera suivi de votre rendez-vous du Lingala avec le journal en Lingala, l'invité en Lingala, le dossier en Lingala, Sango Yabawenze, le tout en Lingala. Mais avant cela, Kakia Kewa sera avec nous pour nous livrer le menu de ce moment de rendez-vous unique sur la FM en RDC. Jisen Tiala est à la mise en onde de cette antenne. Je suis Baya Chamala. Tout de suite, retrouvons Étienne Lissumbu qui nous rejoint pour la revue de presse.